talmudique. Nos humanités nous rendent-elles inhumains ? S'interrogeait George Steiner en s'indignant de sa propre surdité à la demande d'un mendiant au sortir d'un cours particulièrement intense portant sur une des grandes pièces du théâtre antique. Mais oser poser et partager cette insoutenable question, n'est-ce pas déjà répondre d'une humanité qui n'abdique pas devant la souffrance de l'autre et l'extrême exigence éthique de celui qui se construit avec le texte ? Dans notre période de haute turbulence, dans laquelle les moins pessimistes voient les soubresauts du monde connu parvenus à son terme, cette question continue de résonner. Mais si, dans cette probable longue période transitoire d'accouchement d'un monde inédit, nous en inversions les termes, pour nous demander qu'est-ce qui dans nos humanités nous garantirait de rester humains ? Qu'est-ce qui nous permettrait de garder le cap d'une humanité choisie, non pas celle d'un passé regretté, d'un âge d'or supposé, mais celle qui parcourt l'histoire et lui survit, si l'histoire est cette longue série d'événements qui nous ordonne et dans lesquels se construit chaque vie ? Bien sûr, nos questionnements contemporains ne sont plus ceux des Européens qui, en leur temps moderne, découvrirent un nouveau monde, de nouvelles manières d'être humain que de longues controverses et les progrès de l'esprit ont fini par intégrer, si ce n'est accueillir, dans le giron de l'humanité. L'enjeu aujourd'hui n'est plus de décider de qui est un être humain, étant entendu que toute personne a droit à la dignité et que tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Mais où et comment pouvons-nous continuer de vivre ? Et avec quel repère ? N'aurions-nous pas tout intérêt à interroger ceux qui, au jalon des temps modernes et de notre époque contemporaine, ont fait des sociétés humaines leur objet de recherche et de l'organisation des hommes pour vivre sans s'entretuer une science ? Et envisager avec eux les voies d'une humanité répondant aux défis de sa survie dans notre ultra-moderne monde contemporain ? De ces chercheurs et pionniers dans les sciences humaines, on peut dire ce que disait Lévinas de Maïmonide. À côté des recherches savantes qui situent un grand penseur au carrefour des influences qu'il a subies et de celles qu'il a exercées, il y a une place pour une question modeste mais grave. Qu'est-il pour nous ? La valeur d'une vraie philosophie ne se place pas dans une éternité impersonnelle. Sa face lumineuse est tournée vers les êtres temporels que nous sommes. Sa sollicitude pour nos angoisses fait partie de sa divine essence. L'aspect véritablement philosophique d'une philosophie se mesure à son actualité. Le plus pur hommage qu'on puisse lui rendre consiste à la mêler aux préoccupations de l'heure. Celles de notre époque sont particulièrement poignantes, elles concernent l'essence même de notre civilisation en tant que juif et en tant qu'homme. Oui, que sont-ils pour nous tous ces penseurs du passé, ces penseurs de l'humain et de la modernité ? Que peuvent nous apprendre les premiers penseurs des sciences humaines sur notre société d'aujourd'hui ? Comment eux-mêmes ont-ils conjugué cette relation entre tradition et modernité ? Question générale, mais qui se pose particulièrement dans le judaïsme, car ce dernier est lié de façon intrinsèque à la modernité, comme nous l'avons vu la semaine dernière avec Dominique Schnapper, l'émancipation est passée par là. Perrine Simon-Naoum, bonjour.
Bonjour.
Perrine Simon-Naoum, vous êtes directrice de recherche au CNRS, professeure attachée au département de philosophie à l'École normale supérieure, auteur de très nombreux articles et ouvrages très remarqués et directrice de collection chez Odile Jacob. Et vous venez de faire paraître aux éditions Albin Michel un ouvrage intitulé « Les Juifs et la modernité », sous-titré « L'héritage du judaïsme et les sciences humaines au XIXe siècle ». Ma première question portera sur une clarification des termes et des concepts que je viens moi-même d'utiliser. D'une part, qu'appelle-t-on modernité ? Et d'autre part, que désigne l'expression « sciences humaines » et en quoi leur apparition au milieu du XIXe siècle est une révolution dans la recherche et les études universitaires ? Commençons par la modernité, Perrine Simon-Naoum.
Alors je crois qu'on n'aurait pas pu résumer mieux ce projet et ce livre, cher Marc-Alain Wachnin, que vous l'avez fait dans ce chapeau de l'émission, effectivement, dans son ambition et dans son défi, qui sont contenus dans les termes de modernité et de science de l'homme. Alors on a coutume, vous le savez, d'appeler modernité le moment où l'individu affirme son autonomie, c'est-à-dire se détache des autorités, soit politiques, soit transcendantes. Et évidemment, ce moment a une date bien précise, la Révolution américaine, peut-on dire, mais surtout la Révolution française, donc 1789, et pour le judaïsme, l'émancipation de 1791 pour le judaïsme français. Or, ce qui est très intéressant, c'est cette position singulière des Juifs entre tradition et modernité, et c'est quelque chose que vous connaissez, que vous vivez, je dirais, mieux que personne, c'est-à-dire que les Juifs n'ont pas attendu 1791 pour s'adapter aux conditions politiques, sociale, économique, qui étaient celles que leur faisaient les sociétés extérieures. Ils ont toujours dû, en quelque sorte, passer compromis avec ces sociétés et donc faire évoluer la tradition. Vous avez rappelé Maïmonide, c'est évidemment l'une des grandes figures dans lesquelles on voit tout ce travail du judaïsme sur la tradition. Alors, évidemment, 1791 marque une date, mais je dirais que pour le judaïsme français, cette date est en fait celle du moment où la modernité devient un problème philosophique. Non plus une situation imposée, mais un problème philosophique. Pourquoi ? Parce que il leur faut, à ce moment-là, et ils en prennent immédiatement conscience, je pense, ce qui les différencie de ce qu'on appelle les Juifs de la Haskalah, donc des Juifs des Lumières, même si les érudits dont je parle se situent à la suite des Lumières, il leur faut repenser la temporalité dans laquelle va s'inscrire le judaïsme, et partant donc le récit que le judaïsme, qu'ils tiennent à voir perdurer, peut faire de lui-même. Alors, ce récit, il prend une forme privilégiée, qui est aussi celui de la modernité au début du XIXe siècle, qui est celui de la science. Et pas n'importe quelle science, pas les sciences de la nature, mais les sciences de l'homme, c'est-à-dire les sciences qui, au début du XIXe siècle, notamment à travers la linguistique comparée, à travers la mythologie comparée, à travers la philologie, vont permettre à l'homme de mener enquête sur ses origines. Et là, évidemment, les Juifs, je dirais, sont privilégiés parce que, contrairement aux catholiques et même, je dirais, en France, contrairement aux protestants, ils n'ont aucun dogme qui les empêche, qui fasse obstacle à ce qu'ils se penchent sur leur origine, mais en savant, pour la première fois, non pas en talmudiste, non pas en exégète, mais en savant, c'est-à-dire avec ce regard d'une critique réflexive qu'impose la science.
Vous avez répondu sur la question de la modernité, vous avez déjà répondu à la question de quelles sont ces sciences humaines. J'avais envie de vous poser la question, en quoi est-ce une révolution ? Avant 1791, 1789, avant cette révolution, il y avait déjà des philosophes, des poètes, des théologiens. Quelle est la nature spécifique des sciences humaines ? Vous venez de le dire, vous avez parlé de regard critique, mais de manière plus précise, comment on pourrait les définir ? Et en particulier, est-ce qu'il n'y a pas une place privilégiée qui a été réservée aux sciences du langage ? Et pourquoi ? Pourquoi ces chercheurs se sont-ils tournés plus vers ce qui allait devenir ces sciences humaines que vers les sciences de la nature, Perrine Simon-Naoum ?
Alors, nouveauté, côté inédit des sciences de l'homme, évidemment, vous avez raison de le rappeler, il y avait des linguistes avant le 19e siècle, il y avait des philologues, il y avait des philosophes, il y avait des historiens. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le rôle qui était dévolu à l'homme, et je dirais à l'individu comme acteur historique, dans ces sciences, avant la fin du 18e siècle, était tout à fait différent. C'est-à-dire que le cours de l'humanité reposait encore sur l'intervention de ce qu'on pourrait appeler un principe providentiel, qu'il soit politique, qu'il soit divin. Et finalement, l'homme était de façon assez restreinte, dans certains domaines seulement, l'acteur de sa propre histoire. Ce qu'ont de parfaitement inédit les sciences humaines, qui voient le jour progressivement, hein, elles ne s'imposent évidemment pas du premier coup au début du XIXe siècle, c'est d'une part de reposer sur une méthode critique. Et c'est là où les sciences du langage ont toute leur importance, parce que c'est d'abord une critique qui naît dans la critique des textes, c'est-à-dire de la philologie. Mais c'est aussi, je dirais, de recomposer l'ensemble de la marche de l'humanité, l'ensemble de l'aventure humaine, en la mettant non plus sous l'égide d'un principe supérieur, non plus sous la direction d'un principe transcendant, mais sous la direction de l'homme. Et donc, de comprendre cette histoire, finalement, là, dans le prolongement des Lumières, on pourrait dire, mais avec des moments où la tendance peut s'inverser, comme une évolution de l'humanité dont le point final est représenté par l'état dans lequel sont les différentes civilisations au XIXe siècle. Ce qu'on d'inédit aussi ces sciences de l'homme, c'est que l'intérêt qu'on porte désormais à des civilisations anciennes fait que on commence à aller chercher les textes, à faire des recherches archéologiques, et on voit donc émerger à ce moment-là, dans la première moitié du XIXe siècle notamment, tout un continent de l'histoire humaine qui était demeuré caché, mais parce qu'on n'avait pas les documents, ou alors quand on les avait quelquefois, on ne savait pas les lire, on ne savait pas les déchiffrer. C'est le moment où l'Inde apparaît comme l'un des berceaux de l'humanité, l'Inde ancienne, la Perse, la Syrie. Il faut rappeler que c'est un juif qui crée, enfin qui installe en France, cette discipline qui est l'assyriologie. Donc si vous voulez, et l'assyriologie date du début des années 1870. Donc il faut au XIXe siècle non seulement une curiosité nouvelle, mais je dirais une science et toute une méthodologie pour apprendre à connaître ces civilisations et reconstituer finalement progressivement ce qui est le puzzle de l'histoire humaine.
Alors vous venez de citer, d'évoquer Oppert, qui est ce savant qui va déchiffrer les tablettes cunéiformes. Dans vos recherches sur ce sujet que vous menez depuis plus de 25 ans, vous vous êtes aperçu très tôt qu'une part importante de ces penseurs et pionniers des sciences humaines, vous venez de le rappeler, étaient juifs. Qui sont ces chercheurs? D'où venaient-ils? Comment ont-ils été formés? Et pourquoi arrivent-ils sur la scène universitaire à ce moment-là? Vous l'avez aussi évoqué. Je sais que l'on ne peut pas tous les nommer, mais je crois qu'il est important d'en retenir quelques noms. Vous venez de citer Oppert, et je crois qu'il faut nous faire découvrir encore d'autres grands savants de cette époque. Perrine Simon-Naoum.
Alors, effectivement, ces savants sont aujourd'hui parfaitement oubliés. Et c'est vrai que j'ai plaisir, et on est dans Talmudique, à rappeler leur nom. Parce que rappeler le nom, c'est aussi faire revivre. Et c'est aussi, comme vous le disiez, rappeler tout ce qu'ils nous ont transmis et tout ce qu'ils nous ont permis de faire. Alors, on pourrait dire que les savants auxquels je me suis intéressée, qui sont un tout petit groupe, il faut bien le rappeler, mais qui ont eu une action d'autant plus remarquable parce que ce sont vraiment les fondateurs des sciences de l'homme en France, peuvent se diviser, je dirais, peut-être en deux groupes ou deux générations. Vous avez d'abord des savants qui ont été formés en Allemagne, dans l'université allemande, fondée en 1810 par Humboldt, qui est donc une université qui se veut moderne, scientifique, où la philologie est la discipline reine. Or, ces savants, s'ils entendent faire carrière en Allemagne, sont obligés de se convertir. Et la plupart viennent de milieux religieux. Ils ont étudié dans les yeshivot et ils refusent la conversion. En revanche, la France de la monarchie de Juillet leur est beaucoup plus accueillante, puisqu'il est possible de faire carrière en France. Alors, dans ce qu'on appelle l'université, il n'y en a que les grands cadres, hein. L'université apparaîtra vraiment à la fin du XIXe siècle. Mais on peut faire carrière, quand on est juif, en France, dans l'université. Or, évidemment, ces savants disposent dès le départ d'un avantage comparatif énorme, puisqu'ils connaissent l'hébreu, ils connaissent l'araméen, évidemment, ils connaissent l'arabe et pratiquent souvent d'autres langues, là où les savants non-juifs dont ils partagent les études, eux, doivent encore faire l'apprentissage de ces langues. Donc ils arrivent en France, et c'est un premier groupe de savants. On peut parler de Salomon Munk. Salomon Munk est sans doute, je dirais, l'une des figures les plus remarquables, parce que il a choisi de s'occuper de philosophie médiévale, d'abandonner la philologie, de s'occuper de philosophie médiévale, et vous savez que c'est celui qui remplacera Renan en 1863 au Collège de France. Salomon Munk est par ailleurs le grand traducteur du Guide des égarés de Maïmonide. Et on utilise encore aujourd'hui sa traduction publiée aux éditions Verdier. On peut rappeler aussi le nom de Joseph d'Ehrenburg. Alors, donc ça, c'est un premier groupe, je dirais, de savants arrivés d'Allemagne. Maintenant, ces savants sont rejoints par une génération de savants nés en France. Parmi eux, le principal disciple de Victor Cousin, Adolphe Franck, qui publie, vous savez, son premier livre en 1843 sur la Kabbale, mais qui sera aussi celui qui va mettre en œuvre le grand œuvre de Cousin, c'est-à-dire le Dictionnaire des sciences philosophiques, en 1848. Quelqu'un d'absolument prodigieux, parce que c'est quelqu'un qui a donné naissance à la sémantique puis à la linguistique, qui est Michel Bréal. Donc là encore, né dans l'Est de la France, qui fera un passage par l'Allemagne et qui, à partir de 1863, donc, va développer cette linguistique et cette mythologie comparée au Collège de France, avant de céder sa place à Ferdinand de Saussure, qui sera son disciple. On doit également parler de ces figures extraordinaires que sont les frères Darmstadter, dont l'un, vous savez, était spécialiste de linguistique médiévale, a travaillé sur les gloses de Rashi, en montrant comment, à travers la lecture de Rashi, on pouvait reconstituer le français de l'époque à travers l'ensemble des termes, puisqu'on sait que Rashi englobe un nombre de domaines, même du quotidien, sans parler de l'érudition extraordinaire, et l'œuvre de son frère James Darmstadter, l'auteur des prophètes d'Israël en 1892, qui va travailler sur l'Iran ancien, qui va travailler sur le Zen d'Avesta, et qui va prendre une position, je dirais, singulièrement juive, dans la mesure où il cherche à montrer, au moment où les turiféraires du Zen d'Avesta cherchent à dire que la Bible n'en est qu'une pâle imitation, et que finalement le judaïsme aurait repris quelques éléments de la mythologie de l'Inde ancienne, Darmstadter rétablit les choses en montrant que la Bible a cette spécificité de définir un dieu monothéiste, ce qui est absolument absent de toute la doctrine de Zoroastre et du Zen d'Avesta. Donc si vous voulez, ces juifs qui font des sciences humaines, qui de la philosophie médiévale, qui de l'étude des monnaies, la numismatique avec Théodore Reynac, qui de la linguistique et de la mythologie comparée avec Bréal, qui du travail sur le Zen d'Avesta et sur les religios indo-iraniennes comme James Darmstadter, vont chaque fois défendre à la fois, je dirais, le judaïsme, dès lors qu'il est attaqué par ceux qui cherchent à partir des années 1860 à montrer que les civilisations aryennes l'emportent sur les civilisations sémantiques, mais aussi le judaïsme dans ce qu'il amène comme position réflexive, comme position critique, comme approche des textes, comme interprétation.
Nous sommes en train d'entendre la première leçon des ténèbres de Couperin, chantée ici par Johannette Zomer, accompagnée au théorbe et à la viole de gambe, qui forme une basse continue subtile. C'est un morceau que j'ai choisi en écho à cette phrase de votre livre, où vous dites, en parlant de ces savants qui ont élaboré ces nouvelles sciences humaines et les ont enseignées du haut de leur chair au Collège de France ou au sein des différents départements de l'École pratique des hautes études, je vous cite, « Le souci du judaïsme figure toujours en filigrane de leurs écrits, quand bien même il n'est pas directement concerné par les études menées. Il inspire, ajoutez-vous, à la manière d'une basse continue, l'idée que l'homme demeure au centre et chemine en parallèle avec les théories républicaines. » L'image de la basse continue n'est pas innocente, car si la mélodie innove, la basse continue peut aussi improviser. Il y a comme un dialogue entre la tradition et la modernité, où l'innovation n'est pas toujours seulement du côté de la modernité. Perrine Simon-Naoum.
Alors merci pour ce morceau de Couperin qui effectivement rappelle, je dirais par son côté spirituel, le travail de ces savants du judaïsme sur lequel j'ai longtemps travaillé. Alors la basse continue, comme vous le savez, donc c'est le moment où la monodie à la fin du XVIe siècle l'emporte sur la polyphonie. Et donc, on prend l'habitude à ce moment-là, en tout cas dans les morceaux de clavier, d'indiquer juste les accords. Et revient à l'interprète, et vous l'avez très bien rappelé, le fait de faire les ornements, de faire les accords intermédiaires. Le problème, c'est qu'on s'est très vite aperçu que les interprètes prenaient de plus en plus de liberté avec cela, et très souvent, donc ce qu'on appelle les folies d'Espagne, ces morceaux au XVIIe siècle en Italie ou dans la musique française baroque, donnaient libre cours à l'inventivité des interprètes. Mais ce que j'ai voulu dire, c'est que effectivement qu'il traite des différents domaines que j'ai rappelés tout à l'heure, le souci du judaïsme n'est jamais absent. Et ce souci du judaïsme va s'imposer de plus en plus, je disais, à partir des années 1860, au moment où on va donc opposer le monde indo-européen au monde sémitique pour diminuer l'importance du monde sémitique dans l'héritage de l'Occident, mais aussi à partir de 1870, au moment où l'antisémitisme qu'on connaît aujourd'hui, l'antisémitisme moderne, vient se greffer sur l'antijudaïsme. L'intérêt des travaux, je pense, des gens sur lesquels j'ai travaillé, c'est aussi de venir d'une certaine façon, je dirais, nuancer l'image qu'on a de l'avènement de la science républicaine. C'est-à-dire que, évidemment, à partir de 1860-1870, il se place du côté de la République. Il se place, d'une certaine façon, du côté d'une laïcité politique. En revanche, ils ne seront jamais pour considérer la science comme une sécularisation, comme la morale comme une sécularisation. Ils gardent toujours cet attachement profond au judaïsme, et d'autant plus profond que il leur faut combattre pied à pied et de façon de plus en plus acharnée sur ce terrain-là.
Alors comment poser la question de la judéité de tous ces savants et chercheurs sans s'exposer au danger de l'essentialisme et sans que cela soit apologétique ou discriminatoire? Perrine Simon-Naoum.
Alors justement, en faisant, je crois, ce que nous avions commencé à faire au début de cette émission, c'est-à-dire en posant le problème de la modernité, de son rapport à la tradition, comme un problème philosophique. Ce qui unit ces savants, et ce dont ils héritent en fait du judaïsme, c'est la manière dont ils conçoivent à la fois la pratique de la science et, je dirais, le cours de l'histoire humaine. Et pourquoi ils héritent du judaïsme? Parce que ils ne sont jamais dans la confusion. Ils ne sont jamais dans la confusion parce que leur modèle de réflexion, leur méthode, la façon dont ils voient les choses, place toujours, vous l'avez rappelé, l'homme au centre des choses, c'est-à-dire que on est toujours dans ce qu'on pourrait appeler un artificialisme, un constructivisme. La culture, et ça fait le lien avec l'émission et l'invité que vous receviez la semaine dernière, Dominique Schnapper, qui rappelait que le judaïsme est une civilisation. Elle avait parfaitement raison, c'est-à-dire que le judaïsme n'est pas seulement une religion, c'est aussi une tradition, c'est aussi une transmission, c'est aussi une culture, mais tous ces termes ont un point commun, ils sont une construction de l'esprit humain. Et ce qui va caractériser les savants sur lesquels j'ai travaillé, c'est que à aucun moment ils n'acceptent de référer l'homme à la nature. La nature n'est pas l'instrument de l'histoire. La nature n'est pas l'acteur de l'histoire. Celui qui fait l'histoire, c'est l'homme. Et donc, je crois que cet enseignement qui est profondément juif et dont on aurait tout intérêt à se rappeler aujourd'hui au moment où on pose les questions d'identité. Et effectivement, ce qui traverse toutes ces sciences dans la manière dont les abordent les savants juifs, c'est précisément la question de leur identité, question qu'ils ont abordée, on pourrait dire, presque un siècle avant tout le monde. Et c'est pas pour rien que Durkheim est le fondateur de la sociologie et est également fils de rabbin. Donc, cette question de l'identité, elle vient s'opposer en permanence à toute tentation d'essentialisation.
J'ai été surpris dans la construction de votre livre parce que vous terminez sur un long chapitre consacré à Proust. Et je me suis demandé, dans cette réflexion sur les savants qui ont construit ces sciences humaines, pourquoi tout à coup un chapitre sur Proust? On pourrait avoir l'impression que c'est un chapitre sur la littérature. Peut-être aujourd'hui, dans ce moment de notre histoire, qui est aussi une crise du livre et de la lecture, les chiffres des ventes qui sont en forte baisse en témoigne, n'est-ce pas pour dire que, en tant que philosophe que vous êtes, que les sciences humaines sont importantes mais ne suffisent pas et que l'écriture littéraire de fiction est nécessaire pour retrouver la véritable dimension de l'humain? Et peut-être faut-il aussi préciser, comme vous le faites, que Proust lui-même, à un certain moment, ou en tout cas au début, fut souvent lu comme un sociologue et non comme un écrivain. L'ambiguïté est intéressante, Perrine Simon-Naoum.
Alors effectivement, je suis heureuse que vous me posiez cette question sur Proust parce que en réalité, j'ai écrit le livre pour finir sur ce chapitre. Pour quelles raisons? Je dirais elles sont doubles. D'une part, pour le parallélisme qu'on peut trouver l'influence des sciences religieuses et des sciences humaines chez Proust. C'est une chose qu'on sait rarement. Le fait que Proust ait porté beaucoup d'intérêt à ces sciences, et on peut lire la recherche, je dirais, à l'aune des découvertes qui sont faites au moment où Proust entreprend sa rédaction, notamment sur l'art pariétal. Plus profondément, évidemment, je dirais que l'œuvre de Proust est traversée de la question de l'identité, donc il n'était pas très étonnant de le retrouver là, traversée de ce que j'ai appelé un maranisme littéraire. Et c'est aussi le moment où, dans les études juives, notamment à travers la publication par Salomon Reinach de l'histoire de l'Inquisition, qu'il traduit d'un historien américain, mais aussi dans la revue des études juives, commencent à émerger les études sur le maranisme. Or, je dirais que Proust est vraiment l'écriture proustienne, c'est un maranisme littéraire, c'est-à-dire que, alors je ne vais pas vous rappeler, puis on pourrait faire des heures d'émission dessus, le parallèle entre le juif et l'inverti qu'il fait dans la fin de la première partie de Sodome et Gomorre, mais en montrant comment, en réalité, l'individu se diffracte. Il n'y a jamais un individu, c'est ce que dit Jean-Yves Tadier, le grand spécialiste de Proust, il dit le personnage proustien, c'est un masque. Et qu'on prenne Swann, ou qu'on prenne le baron de Charlus, ou qu'on prenne Bloch, donc les personnages qui sont à la fois Dreyfusards et qui ont ce lien avec l'inversion, ils ne sont jamais un, ils sont toujours diffractés, différents, selon la position dans laquelle ils se trouvent, selon le regard qu'on porte sur eux. Et donc, ce que Proust a voulu indiquer, je pense, dans la recherche, c'est justement la manière dont l'individu se définit non pas dans ce qui apparaît le plus généralement de lui, et en s'approustait est tout sauf un sociologue, et c'est un écrivain, vous l'avez rappelé, mais finalement dans ses écarts, dans ses interstices, dans ses décalages, dans ses questionnements, dans tout ce qui regroupe, donc je dirais, la question de l'identité. Et finalement, qu'est-ce qui procure une unité? Eh bien, je dirais que la transvaluation, la transmutation que la description littéraire fait subir à ses observations. C'est-à-dire que finalement, c'est l'art qui vient couronner tout ça. Et je termine sur cette lecture de John Ruskin par Proust dans la reconstitution qu'il fait de Venise, où il montre que se promenant à Venise, on pourrait donner 10 000 images de Venise, mais que finalement, on n'a jamais une connaissance directe des choses qui nous entourent, de même qu'on n'a jamais une connaissance directe du monde dans lequel on évolue, mais qu'il faut toujours donc en passer par cette spiritualisation. Et évidemment, quoi de mieux que la littérature, je crois que nous en serons d'accord, pour nous permettre de voir peut-être plus profondément dans le monde où nous habitons.
Merci Perrine Simon Naoum d'être venue partager toutes ces passionnantes réflexions et les fruits de ces 25 ans de recherche qui nous donnent vraiment envie d'en savoir beaucoup plus et d'approfondir ce moment fondateur de l'histoire des hommes et des idées. Bien sûr, nous n'avons pas répondu à toutes les questions que nous nous posions au début de l'émission. Les mains pariétales sont passées un petit peu à la trappe, mais la sagesse n'est-elle pas aussi la sagesse de l'incomplétude qui appartient à l'essence du temps et du futur? Je rappelle le titre de votre livre, Les Juifs et la modernité, sous-titré L'héritage du judaïsme et les sciences humaines au XIXe siècle, un livre que les éditions Albin Michel, je dois le dire, ont eu la très bonne idée de publier, un livre riche qui nous fait découvrir des hommes à l'intelligence en perpétuel mouvement, dont l'enthousiasme de l'étude et de la recherche est communicatif. Merci encore Perrine Simon Naoum.
Merci Marc-Alain Wacknin.
C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Wacknin et Françoise-Anne Ménager. À la prise de son aujourd'hui, Philippe Mercher. À la réalisation, comme d'habitude, Dany Journaud. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de notre invité sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.